en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Les hommes fossiles en os et en chair, une conférence d'Amélie Vialet à l'Institut de paléontologie humaine, une retransmission que vous écoutez dans quelques instants.
Ce soir, je vais donc vous parler moi essentiellement d'os, puisque c'est mon domaine. Je suis paléanthropologue à l'Institut de paléontologie humaine. Et donc, je vais vous parler un peu d'os et un peu des déboires des paléanthropologues, parce que finalement, ironie du sort, on travaille sur des documents complètement tronqués. Et évidemment, il faut qu'on fasse avec. Et évidemment, il faut qu'on optimise ce matériel pour essayer de le faire parler le plus possible. Et pour essayer d'avoir un maximum d'informations pour reconstituer un petit peu notre arbre généalogique et les mécanismes de l'évolution de l'homme. Alors en effet, comme vous l'expliquait Pierre Caldi, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé sur des fossiles qui ont été découverts en Chine, fossiles de Yongxian, que j'ai eu à étudier dans le cadre donc de ma thèse. Et voyez, pour ce spécimen que je vous montre là, qui est donc à ma gauche, c'est le crâne numéro 2 du site de Yongxian, qui a été découvert dans les années 90. On a découvert deux crânes fossiles d'Homo erectus. Et voilà, ça c'est le spécimen numéro 2, le moins déformé des deux, donc que je vous présente là, qui est relativement complet et qui est donc très intéressant à étudier. C'est un jalon un petit peu de notre évolution assez incontournable, d'autant que, vous allez le voir sur ces quelques images, il provient d'un site et d'une couche stratigraphique de ce site très bien datée. Et donc, il est daté de 936 000 ans, ce qui en fait le fossile le plus ancien de Chine et même d'Asie continentale. Et de ce fait, c'est en effet un ancêtre important à intégrer à notre arbre phylétique. Du fait par contre de sa déformation, du fait des altérations qu'il présente et qui sont dues à tout le processus de fossilisation qui, voyez, paradoxalement l'a conservé, l'a préservé jusqu'à nous, mais en même temps, dans le même temps d'ailleurs, l'a complètement altéré. Et donc du fait de cette histoire, eh bien, ce fossile est relativement déformé. Et donc pour pouvoir mieux l'étudier, eh bien, nous l'avons préalablement reconstitué. Donc toute la démarche du scientifique, c'est justement d'utiliser les moyens un petit peu modernes et performants aujourd'hui pour mener à bien cette reconstitution, mais en même temps en argumentant chacune des étapes de cette reconstitution sur une base scientifique. Alors juste pour vous faire voyager un petit peu, là vous voyez le site de Yongxian, on pourrait penser qu'il est plutôt en lien avec le fleuve jaune qui est au nord de la Chine, mais il est finalement au bord d'un affluent du fleuve bleu. Vous voyez les dimensions gigantesques de ce pays, parce que ce qu'on prendrait nous pour un fleuve, là vous avez sur les images à droite, c'est un affluent. Donc affluent ici du fleuve bleu, le fleuve Han. Et puis les terrasses, vous voyez, alluviales qui s'étagent. Et au sommet donc de l'une d'entre elles, à 219 mètres d'altitude, le site de Yongxian. Vous apercevez certainement ici le promontoire, ici où le site se trouve. Et puis vous le retrouvez là en vue un peu rapprochée, avec toute cette série de trous que vous observez, qui sont des prélèvements donc de sédiments tout au long de la stratigraphie, qui permettent de faire toute une série d'analyses pluridisciplinaires, sédimentologiques, géologique, géostratigraphique, géochronologique, paléomagnétique, etc., qui permettent de bien positionner chronologiquement l'horizon où ont été découverts les fossiles. Le voici justement, ce niveau, c'est le niveau C3 ici, donc vous avez une alternance de sable et de limon qui s'est déposé sur une hauteur assez importante d'une dizaine de mètres et sur un socle de schiste précambrien, puis à droite toujours ces fameux prélèvements que l'on a effectués pour études. Alors voici donc les deux crânes. Le crâne de Yongxian 1 ici, Yongxian 2 ici, vous voyez donc qu'ils sont qu'ils sont complets, qu'il y a deux crânes, donc c'est quand même une découverte exceptionnelle, mais qu'en revanche, ces fossiles sont assez déformés. Yongxian 1 est très aplati. Alors par contre, au passage, je profite de l'image pour vous montrer que ce crâne est très aplati. Par contre, l'os zygomatique, là, qui est en position assez extérieure par rapport à tout le volume et le reste du crâne, crâne, eh bien cet os zygomatique ne semble pas avoir beaucoup souffert de la déformation. C'est important parce qu'en fait, c'est un élément que l'on va prélever virtuellement sur ce spécimen et qu'on va adapter à ce spécimen numéro 2 dans notre projet de reconstitution. Alors on s'est permis de le faire parce que les deux fossiles proviennent de la même couche, qu'ils ont été trouvés à proximité, à 3,30 m d'écart à l'horizontale, et que vous voyez, malgré la déformation, ils sont quand même assez proches morphologiquement, donc l'un nous a servi pour compléter l'autre. Donc celui qu'on a complété, celui qu'on a reconstitué, c'est plutôt celui-ci, le fossile de Jungsian 2. Alors, on a d'abord passé au scanner les fossiles, donc comme un patient hein, dans un hôpital, on a apporté le fossile à Wuhan en Chine, on l'a passé au scanner et on a récupéré tout un jeu de données numériques. Et une fois en France, on a pu travailler sur ces données et de ce fait, on a pu avoir accès à l'inaccessible, c'est-à-dire voir l'intérieur de ces crânes. Vous voyez ces crânes qui sont complets, qui sont pleins de sédiments, donc le scanner nous permet d'aller investiguer un petit peu l'intérieur et nous permet surtout de ce fait de mieux comprendre comment le fossile s'est déformé. Alors sans aller trop dans le détail, on a pu reconstituer les différentes étapes de cette déformation, ce qui nous paraissait un prérequis important avant de compenser la déformation, avant de trouver les moyens de compenser ces altérations, et bien de d'abord comprendre comment elles avaient eu lieu. Donc déjà on voit que le crâne est rempli de sédiments, que dans un contexte fluviatile comme je vous l'ai décrit, les crânes devaient s'être déposés un peu dans un méandre de ce fleuve, déposé doucement par flottaison et puis se remplir donc assez tôt dans leur histoire, se remplir de ce sédiment qui, je dirais, était salutaire parce que finalement c'est parce que tout le sédiment est rentré à l'intérieur que l'ensemble a été conservé puisque l'ensemble, crâne et remplissage, a fossilisé dans un même temps, et donc ça a permis sa préservation. On voit aussi, on note assez bien la fracture de tout ce bloc facial. Là, vous avez la face, là, vous avez l'arrière-crâne, c'est une coupe sagittale, donc toute la cassure ici qui a détaché le bloc facial, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'il a été détaché et cassé en place, puisque le fossile était à ce moment-là enfoui, était dans un espace qu'on appelle un espace colmaté, et bien l'ensemble est resté tout de même solidaire. Et puis même après cet événement de cassure qui arrive à un moment où le seuil de plasticité est atteint, c'est-à-dire que le fossile, vous voyez, il se déforme, il s'aplatit, puis à un moment, le seuil de plasticité est atteint et le bloc de la face se détache. Et de ce fait, après ce détachement et cette cassure en place de toute la face, le crâne a continué, la calotte crânienne a continué à se déformer et a glissé légèrement sous l'écaille frontale qui était à ce moment-là surélevée, en position un petit peu élevée, qui laissait un espace donc, dans lequel a glissé le reste du crâne. Donc voilà les différentes étapes de la fossilisation, et donc on a pu reconstituer comme ça l'histoire de sa fossilisation, ce qui nous a permis de mieux comprendre le fossile. Dans un deuxième temps, ce qui a été important, c'était de le comparer, ce fossile tel qu'il est, déformé, de le comparer avec des fossiles. On a choisi un corpus asiatique et une répartition de cet échantillon assez large chronologiquement. On a choisi de le comparer essentiellement donc avec des fossiles asiatiques, mais avec des fossiles qui peuvent dater de 800 000 ans ou qui peuvent dater ici peut-être de 50 000 ans. Donc on a un échantillon qui s'étale comme ça sur une grande période chronologique. Le but étant de comparer ce fossile dans sa forme, même je dirais plus précisément dans sa conformation, c'est-à-dire qu'on a en fait ramené les différents fossiles de cet échantillon à la même échelle par un processus statistique, et de ce fait on a comparé entre eux ces fossiles, mais on a comparé uniquement leur forme, enfin en enlevant préalablement leur taille, c'est-à-dire leur format. Donc la conformation de ces fossiles, ici la conformation de leur profil sagittal tel que je vous le montrais tout à l'heure, a été comparée, donc entre Jungsian 2 déformé ici et puis l'ensemble des fossiles asiatiques dont je vous parlais à l'instant. Ça nous a permis de regarder comment la morphologie de Jungsian 2 pouvait apparaître très différente, voire aberrante, par rapport aux fossiles que l'on connaît bien par ailleurs et qui ne sont pas déformés et qui sont tous globalement des Homo erectus. Alors voyez, là c'est représenté en fait graphiquement. Donc ici, Jungsian 2 se distingue nettement de tout le reste de l'échantillon. Pourquoi ? Ben parce qu'il a une conformation de son crâne qui est assez différente du reste de l'échantillon. Et ici, vous avez les différents points repères qui ont été donc utilisés, localisés sur chacun des crânes. Et par rapport à ces différents points repères, vous avez ces flèches qui indiquent en fait la variation de cet échantillon. Chaque flèche correspond à un spécimen de l'échantillon. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, les flèches les plus longues sont souvent celles qui correspondent à Jungsian 2 et indiquent à ce moment-là la grande différence de forme, de conformation entre ce crâne et l'échantillon de comparaison. Exemple ici, vous avez l'écaille frontale, je vous ai dit qu'elle était surélevée et toute la question a été cette écaille frontale, cette partie gauche qui est surélevée par rapport à la droite, est-ce l'écaille frontale la courbure d'origine et est-ce que c'est là-dessus qu'il faut se baser pour reconstituer le reste du crâne ou est-ce que la courbure d'origine du fossile est la partie droite, la partie qui n'est pas proéminente ici, donc laquelle des deux est la bonne, si je puis dire, pour entamer une reconstitution? Et bien là, vous avez la réponse. Vous voyez que par rapport à l'échantillon des fossiles, eh bien, cette partie-là de l'écaille frontale paraît tout à fait différente, paraît tout à fait aberrante ou particulière par rapport à tous les autres fossiles considérés. Donc, pas à pas, comme ça, je vais vous épargner de faire l'ensemble du crâne, mais je voulais vous présenter la démarche. Pas à pas, comme ça, pour ce profil sagittal du crâne, également pour le profil transversale du crâne, on a trouvé donc des techniques essentiellement par comparaison avec les autres fossiles pour pouvoir produire des contours guides donc dans le plan sagittal, dans le plan transversal comme ici, et ces contours guides ont été donc utilisés pour reconstituer le fossile. Alors là, vous avez un peu les différentes étapes. Le fossile en 3D, cette fois-ci, les images 3D, elles sont générées à partir de l'acquisition des données tomographiques au scanner. Donc ici, vous avez le fossile original. L'écaille frontale, vous voyez, sa partie gauche qui est surélevée et dont finalement la courbure est donc trop accentuée, artificiellement accentuée. À l'inverse, cette partie droite, elle paraît beaucoup plus conforme à la position de cet os originel. La position originelle de l'os. Donc on s'est plutôt basé sur cette courbure-là pour, vous voyez, rabattre l'écaille frontale ici, la ramener au même niveau, donc pour rabattre cette écaille artificiellement surélevée. Également, il manquait les os zygomatiques, je vous en ai parlé au tout début. Les voilà ici adaptés à ce spécimen et prélevés sur le crâne numéro 1, donc des deux côtés, ce qui permet de nettement compléter la face. Les décrochements, type décrochement ici de l'ouverture nasale, ont été donc repositionnés, compensés. Et puis quelquefois aussi, des zones documentées. Ici, vous avez la zone du torus, ce fort bourrelet au-dessus des orbites, qui existe à gauche, qui a été altéré à droite. On s'est permis donc de la reproduire à droite, et donc de compléter ici le torus orbitaire. En revanche, vous verrez que sur les parties latérales là de ce torus, normalement, il se prolonge, cette barre rocheuse se prolonge sur les côtés. Là, ça a été dégradé, mais comme on n'a aucune trace de ce qui était réellement présent sur ce fossile, de ce qui existait à l'origine, on a laissé les parties, bien évidemment, telles qu'elles étaient, donc dégradées. Donc voilà, au final, le spécimen reconstitué, ou je voudrais dire plutôt la proposition de reconstitution que nous avons formulée, puisqu'évidemment, c'est une hypothèse de travail qui demandera à être à l'avenir améliorée, discutée et testée. Alors, ensuite, c'est la mise en place en 3D de ce projet de reconstitution avec différentes étapes. Ici, on a travaillé avec nos collaborateurs chinois donc à la reconstitution de ce fossile. On travaille ici, on positionne le fossile en 3D dans un maillage et puis on vient tirer certaines mailles qui vont déformer l'ensemble du crâne pour coller aux fameux contours guides dont je vous ai parlé et qui sont donc le produit de ma démonstration et ma proposition de reconstitution. Et puis ici, vous avez en 3D toujours la série de modifications qu'on a fait subir à ce fossile au départ déformé jusque pour aboutir à un fossile reconstitué. Et puis là, une petite synthèse en résumé, Jungsian 1 ici, hein, dont je vous ai peu parlé parce qu'il est quand même très altéré, Jungsian 2 ici, qui est le fossile sur lequel nous avons travaillé, et puis au centre, le prototype de la reconstitution. Ce prototype, il est formé en fait grâce à une imprimante 3D de très haute résolution, qui est une espèce, alors dans ce cas présent, c'est un bac de poudre polyamide avec un faisceau laser qui vient consolider aux endroits exacts du projet et qui donc monte progressivement et produit une reconstitution. Donc vous avez ici le prototype de ce spécimen reconstitué qui est présenté. Alors voilà donc aujourd'hui ce que je voulais vous présenter, mais comme il faut toujours essayer d'avoir un petit peu de recul par rapport à sa propre production, je voulais évoquer avec vous quelques reconstitutions qui ont été faites par le passé et qui nous permettent, puisque justement maintenant on a du recul et puisque de nombreuses années se sont écoulées, eh bien ça nous permet en fait de bien saisir de manière assez subtile en quoi ces reconstitutions osseuses proposées sur d'autres fossiles il y a quelques années, eh bien en quoi ces reconstitutions sont le produit de leur temps, parce qu'elles ont été faites par des chercheurs de leur époque, des artistes de leur époque, et que, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, eh bien, on est tous complètement imbibés par notre époque, et ça se ressent, et j'aimerais quelquefois, ce que je disais tout à l'heure dans un cours que j'animais, j'aimerais quelquefois être dans 50 ans pour pouvoir avoir réellement le recul par rapport à cette production, et me rendre compte ben, un peu des écueils dans lesquels je suis tombée, ou en tout cas de tout ce qu'elle comporte de très conforme à ce 21e siècle, ce début de 21e siècle dans lequel elle a été constituée. Donc quelques brefs et rapides exemples de ces reconstitutions passées qui permettent un petit peu, puisque le temps s'est écoulé, de saisir ce qu'elles avaient, ce qu'elles véhiculaient de leur époque, ces productions scientifico-artistiques. Alors, la chapelle au sein, ici, vous êtes un peu dans la maison de la chapelle au sein, parce que c'est un fossile de néandertalien qui a été découvert en 1908 et dont l'étude a été confiée au professeur Marcelin Boulle, qui était professeur de paléontologie au muséum et qui a été le premier directeur de cet institut, l'Institut de paléontologie humaine. Donc, ce fossile important pour la maison, sous lequel vous êtes tous passés ou presque, enfin, en tout cas, sa représentation sculptée, puisqu'il est au porche d'honneur, là, de l'Institut. Il est vraiment à l'aplomb du porche, vous pourrez regarder en sortant, tellement vous voyez, il est lié à cette maison. Alors, le crâne de la chapelle au sein a fait grand bruit lors de sa découverte, surtout porté par l'abbé Breuil, qui lui a donné énormément d'envergure. La preuve ici, une coupure de presse du journal L'Illustration, qui à l'époque faisait référence. Marcelin Boulle en photo, qui trône, vous voyez, avec ce crâne dans la main. Et c'est très important pour l'histoire de la paléanthropologie parce que c'est un des premiers fossiles découverts dans un contexte connu. En plus, c'est un fossile assez complet. Il y a le crâne, mais il y a tout le reste du squelette. Et en plus, il a été trouvé dans un contexte certainement de sépulture. Donc donnant quand même un côté extrêmement symbolique au dépôt de ce squelette. Donc c'est une découverte qui a marqué vraiment son époque. Et l'étude qui est confiée à Marcelin Boulle, eh bien, elle va être vraiment réalisée avec un soin extrême. Marcelin Boulle va publier différents articles qui permettent vraiment de présenter une étude extrêmement détaillée du fossile qui fait toujours référence aujourd'hui. Donc quelque chose d'extrêmement rigoureux, rationnel, et pourtant, j'allais dire, et pourtant, voilà par exemple une des planches qu'il propose, dans laquelle il décrit un caractère anatomique primordial, selon lui, et qui reste en effet un caractère à considérer, un caractère assez important, c'est celui de la flexion de la base du crâne. Hein, selon Huxley, il y a une flexion qui surtout est marquée chez les Homo sapiens, ce qui est un caractère très notable, très spécifique des Homo sapiens. Ça se passe ici à la base du crâne, dans cet os sphénoïde, voyez, qui marque un angle assez fort entre cette partie ici et cette partie là. À l'inverse, chez les grands singes, là, vous avez un os qui est assez plat. Et donc, Marcelin Boule a tout de suite observé ce caractère qui était pour lui vraiment la clé de voûte de l'édifice crânien, comme il disait. Et regardez attentivement, en fait, il va décrire que l'os sphénoïde de la chapelle aux saints, que cet angle est intermédiaire sur la chapelle aux saints entre l'homme et les grands singes. Or, regardez sur le fossile lui-même, qui est ici, en vue latérale, ici, en vue inférieure, la partie dont on parle, elle est là. Et j'allais même dire, elle est justement pas là. Elle est très peu conservée. Finalement, on parle d'un élément qui est en partie altéré, puisqu'il s'agit réellement de cet os-là qui forme un angle. Donc il me semble que Marcelin Boule est allé un petit peu plus loin que ce qu'il était autorisé à dire et à décrire, étant donné l'état de conservation du fossile. Alors évidemment, il y a quelque chose de très intuitif là-dedans, mais il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, j'allais dire, c'est le raisonnement de placer ce fossile comme chaînon manquant, ce fameux chaînon manquant, ce fameux intermédiaire homme-singe, et donc Marcelin Boule de conclure que la chapelle aux saints présente une flexion basique crânienne, certainement intermédiaire entre l'homme moderne et les grands singes. Voilà, nous étions dans les années donc 1910. Alors, Pildan, tout le monde connaît, c'est un, malheureusement peut-être d'ailleurs, parce que ça nous fait certainement encore aujourd'hui un peu de tort, c'est une fameuse supercherie Pildan. Pildan, c'est un fossile qui est découvert dans les années 1912, et qui va s'avérer, mais voyez, de nombreuses années après, en 1953, donc 40 ans après, qui va s'avérer être un faux, qui va s'avérer être un crâne composite et complètement réalisé de manière délibérée. On a créé réellement ce fossile qui finalement était un faux. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut relever, c'est que pendant 40 ans, l'homme de Pildan va être considéré, va être intégré à notre arbre généalogique, va être au sein de la communauté scientifique cité, complètement intégré. Pildan, c'est en Angleterre, donc ça faisait un ancêtre pour les Anglais qui leur convenait tout à fait. Et de ce fait, il a été bien intégré. Donc pendant 40 années, il a fait l'objet de 500 publications scientifiques. Et donc on peut se demander, mais pourquoi autant d'années, pourquoi t'as mis autant de temps à démasquer la supercherie? Et bien là encore, je pense que c'est parce que l'homme de Pildan, lorsqu'on l'a découvert, en le repositionnant dans son contexte, et bien répondait totalement aux attentes de l'époque, aux attentes des scientifiques, mais aussi aux attentes des initiés et aux attentes du grand public. Donc, quelque part, tout le monde était inconsciemment d'accord pour accueillir, intégrer ce fossile qui, finalement, n'en était pas réellement un. Donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est que ce sont ces différents fragments osseux qui sont retrouvés, qui sont typiquement sapiens, qui ne présentent que des caractères modernes, entre guillemets, et ils sont trouvés associés à cette mandibule et surtout à ces dents et surtout à cette canine qui, elle, est plus simienne, justement. Et donc, cette association d'éléments osseux, plutôt donc Homo sapiens ici avec la calotte crânienne et plutôt grand singe ici avec la mandibule, pouvait poser problème. Elle a posé problème. D'ailleurs, des chercheurs comme Boule ou comme Weidenreich se sont beaucoup interrogés et n'ont vraiment pas validé l'association de ces éléments entre eux. Mais finalement, pour la grande majorité des chercheurs, l'association pouvait être permise du fait notamment de l'usure des dents, usure décrite comme étant typiquement humaine. Donc l'ensemble de ces éléments pouvait remonter en un seul et même fossile. Alors juste au passage, on a évidemment tout de suite tenté une reconstitution et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, il me semble, aujourd'hui, parce que ces différents éléments osseux-là ne sont absolument pas en connexion anatomique. Ces éléments n'ont pas de point anatomique de contact. Donc, quand on les remonte entre eux, il y a des grandes plages vides. Et donc, c'est très audacieux que d'essayer de les repositionner entre eux. En plus, vous voyez au niveau de la mandibule, par exemple, que le condyle, qui est ce qui permet l'articulation justement avec le crâne n'est pas conservé, là, précisément. Le menton aussi, le menton ici, la zone de la symphyse mentonnière, qui est assez importante, qui a un caractère diagnostique assez important dans l'étude des fossiles, n'est pas préservé, ce qui est très judicieux de la part du faussaire. Hein. Ça faisait un élément de discussion et de mise en doute en moins. Donc on a tenté une reconstitution et ce qui est flagrant, c'est qu'en fait la discussion par rapport à la reconstitution, eh bien elle se focalise sur la capacité crânienne, sur le volume endocrânien, autrement dit sur le volume du cerveau. Alors il y a plusieurs reconstitutions qui sont tentées, il y en a une qui donne une valeur de 1070 cm3, l'autre qui donne une valeur de 1300 cm3. Et donc vous voyez, on débat, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi, parce qu'on a une reconstitution qu'on ne pourrait pas valider, mais par contre, ce dont on débat, ben, c'est plutôt du volume que dégage cette reconstitution et du volume de ce cerveau. Alors, justement, oscillant entre 1000 et 1300 cm3, ben, ça colle pas mal, parce que c'est un apanage important que le cerveau d'Homo sapiens, donc pour l'ancêtre que pouvait constituer Pildan, ben, c'était assez confortable, parce qu'on avait un ancêtre à gros cerveau. Et en plus, ça allait dans le sens d'une théorie très en vogue à l'époque, la théorie de Elliott Smith, qui en fait prônait le caractère primordial de l'accroissement cérébral, de l'accroissement du cerveau dans l'évolution humaine, autrement dit, qui prônait le fait que notre ancêtre, notre tout premier ancêtre, avait d'abord un gros cerveau. Donc vous voyez que là, ça correspond. Ce fossile, il a un gros cerveau, et puis il a une dentition, bon, qui est un petit peu simienne, mais ça, on pouvait faire la concession, entre guillemets, de cette dentition un petit peu simienne, tant qu'on gardait, si je puis dire, le volume du cerveau assez important, et ce qui donc faisait au total un ancêtre très très acceptable pour les Européens, et notamment, je vous le disais tout à l'heure, pour la communauté anglaise. Alors, la supercherie, elle a été démasquée par une analyse de la teneur en fluor de ces différents os et de ces dents, qui a prouvé que les différents éléments avaient des teneurs en fluor complètement distinctes et que de ce fait, ça ne pouvait pas s'agir du même individu. Alors, rapidement, on fait un bond dans le temps, on avance. Je voulais vous parler de la reconstitution, cette fois-ci, du synanthrope. Le synanthrope, vous savez, c'est ce fameux homme de Pékin, hein, cet homme qu'on a trouvé donc à partir des années 30 à côté de Pékin dans la grotte de Zhoukoudian, qui est un site assez fabuleux. Le voici, le site de Zhoukoudian en cours de fouille. Et puis voici un plan en fait au sol de l'ensemble des excavations qui est très très vaste. Et vous voyez aujourd'hui tout ce site-là, qui est repris ici dans le plan, tout ce grand couloir d'accès, tout ça est complètement vidé de sédiments. C'est vous dire la capacité énorme hein, de ce gisement, qui est justement exploité assez tôt, puisqu'on est en 1927 quand les fouilles commencent. Donc c'est parmi les premières fouilles, fouilles assez rigoureuses pour l'époque. Hein, on a quand même une espèce de grand carroyage, hein, c'est-à-dire des repères au sol pour savoir à peu près d'où proviennent les objets. Puis on a un relevé stratigraphique assez précis hein, que vous avez ici. Vous voyez la hauteur, la puissance de la stratigraphie ici à Zhoukoudian. Et puis vous voyez aussi qu'on découvre du coup de très nombreux restes humains. Une douzaine de calottes crâniennes, une quinzaine de mandibules, des éléments du squelette, 153 dents isolées. Vraiment un matériel extrêmement abondant pour cette période où on connaissait très peu de choses sur l'homme préhistorique. Et donc ce site est le premier à avoir livré concrètement, donc en stratigraphie, des restes humains et de nombreux restes humains. Donc c'est un site majeur pour la paléoanthropologie. Et puis, voici donc quelques exemples de restes crâniens et restes de la face aussi, ce qui vous montre que les fouilles étaient relativement minutieuses parce que de petits éléments du squelette facial sont assez bien préservés. Alors, on évacuait en fait beaucoup le sédiment par grand secteur, hein, par grand locus. Ça descendait avec une tyrolienne et des seaux. Et puis, à l'arrivée, on tamisait beaucoup l'ensemble de ce sédiment. de façon justement à récupérer l'ensemble du matériel. Et puis en 1937, donc 10 ans plus tard, eh bien Franz Weidenreich, qui est l'anatomiste qui s'occupe de l'étude de ces restes humains, eh bien va tenter une reconstitution. Et chose étonnante, il va choisir en fait certains éléments de ce matériel. Alors je vous rappelle, vous l'avez vu au long de la stratigraphie, le matériel a été découvert dans différents niveaux. Alors lui, il va choisir un petit peu, sans respecter vraiment les niveaux, hein, il va choisir donc de travailler à partir de ce crâne, là, le crâne numéro 11, qui est un peu plus gracile, qui est certainement féminin, hein, qui est un peu moins robuste que les autres. Donc il travaille à partir de ce crâne gracile, et puis il va récupérer sur le crâne le plus complet, ces éléments de la face, les os nasaux, et puis un élément du zygomatique ici, et puis il va récupérer aussi des éléments du massif facial ici. Donc à partir de ces différents fragments, alors que tous ne proviennent pas du même niveau et que peut-être tous appartenaient à des individus différents, hein, il va choisir de les regrouper et de fabriquer une reconstitution. Alors la voici, sa reconstitution. Il y a deux observations à faire. Donc, d'une part, réunir donc sur un même crâne des éléments qui proviennent probablement d'individus différents, c'est une idée qui nous est maintenant un petit peu étrangère. Et puis, le deuxième élément, c'est cette reconstitution qu'il produit. Regardez attentivement, il n'y a pas de délimitation entre les os qu'on a réellement découverts, hein, qui sont donc conservés parmi le matériel fossile. On a parlé un petit peu du zygomatique, des os nasaux, la calotte crânienne, ici quelques éléments du maxillaire. Tout ça était conservé, mais toutes les parties qui ne sont pas documentées, qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on n'a pas d'ossements qui soient conservés, eh bien toutes ces parties-là, elles sont confondues avec les parties qui sont conservées. Autrement dit, il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de différence qui soit faite, hein, pour la lecture de la part du public, pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Et d'ailleurs, il y a des zones qui ne sont pas du tout connues. Je pense en particulier à cette zone-là de la face, de la partie là, du clivus naso-alvéolaire de cette face. On n'a aucun élément conservé qui nous permette de connaître la morphologie exacte de ce bas de la face du synanthrope. Et alors que vous voyez ici qu'il a choisi de reconstituer cette partie de manière très convexe, un petit peu selon la morphologie que l'on retrouve chez les grands singes, hein, et que donc là il y a un parti pris délibéré de reconstituer cette partie-là avec un aspect un petit peu simien. Il en est de même pour l'os zygomatique ici, qui est très difficile à positionner dans la face, qui n'a pas de connexion anatomique très précise là dans le cas des éléments qui sont conservés, et que donc on peut faire jouer plutôt d'avant en arrière, et que Franz Weidenreich a plutôt positionné de manière saillante, hein, ce fossile à les pommettes un peu saillantes, j'allais dire un peu à l'asiatique, comme on voit sur les faces plutôt des asiatiques. Je vois nos amis coréens dans le fond de la salle qui se touchent les pommettes. Et donc, en effet, Franz Weidenreich a vraiment pris ce parti, je crois, et justement parce que ça allait un peu dans le sens de ses convictions et de ce qu'il a essayé de démontrer, qu'il y ait une continuité biologique entre les populations fossiles en Asie, en Chine, et les populations actuelles. Autrement dit, une continuité, vous voyez, d'occupation du territoire et un ancêtre chinois. Voilà, donc là, on a deux éléments interprétés par Franz Weidenreich et qui sont traduits en 3D, hein, qui sont traduits dans la plastique même de ce crâne et qui me semblent être un petit peu des a priori, ou en tout cas aller dans le sens de la démonstration que voulait réaliser l'auteur de la reconstitution, à savoir Franz Weidenreich. Et puis, je voulais terminer par une petite histoire. Vous en ferez ce que vous en voulez, parce que c'est vraiment une forme d'intuition, si vous voulez. Cette reconstitution, c'est la reconstitution d'un type, en fait, d'un type fossile, le synanthrope, comme on l'appelle, ou l'homme de Pékin. Ça aussi, c'est une idée qui nous est un petit peu étrangère aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en termes de variabilité. C'est ça qui nous intéresse, c'est la variabilité, d'essayer de comprendre un peu le mécanisme. Et Franz Weidenreich, lui, il a plutôt essayé, au contraire, de fabriquer un individu moyen, un synanthrope. Hein, et donc, ça, c'est vraiment une idée aussi de son raisonnement et de son époque qui lui est propre. La petite anecdote, c'est que, en fait, je vous ai dit au départ, il a essayé de reconstituer un individu féminin. Il a voulu reconstituer une femme ou une femelle, hein, dans ses écrits, il parle de femelle. Et ça, on peut se demander un peu pourquoi. Et on a été amené Arnaud Hurel, que vous connaissez par ailleurs, qui a fait des conférences souvent ici, qui est du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Eh bien, avec Arnaud Hurel, on était amené à reprendre la correspondance, oui, laissée par Pierre Teilhard de Chardin lorsqu'il était en Chine dans les années 20 et qu'il prospectait pour trouver des traces de l'homme préhistorique. Et à partir des années, justement, 27, il a été intégré à l'exploitation de la fouille du site de Choucoutien. Donc, par ses écrits qu'il laisse, puisqu'il envoie de manière très très régulière à Marcelin Boule, qui est ici à l'Institut de paléontologie humaine, il envoie de manière très régulière des nouvelles, des rapports très très précis, eh bien, on vit un petit peu en direct ce qui s'est produit à Choucoutien en 1927, en 1937, et c'est assez fabuleux comme témoignage. Et là, pour ce qui nous occupe, voyez qu'en 1937, il décrit Franz Weidenreich ici, qui est l'anatomiste dont je vous parlais, qui est auteur de la reconstitution osseuse que je vous ai présentée. Il travaille avec Lucille Swan, qui est l'artiste de l'époque, hein, qui, ensemble, donc, ils essaient de mener à bien ce projet, cette fois-ci, de reconstitution, qui concerne plus Elisabeth Desnais, justement, ce soir, cette reconstitution en chair et en os. Hein. Donc, c'est leur projet en 1937, et Teilhard va passer au laboratoire, et puis va être assez marqué par cette reconstitution qu'il voit. Alors, il décrit que Weidenreich, depuis décembre dernier, Weidenreich a reconstitué la face et depuis 2 jours, nous avons de la sorte un modèle moulé de crâne femelle absolument complet que vous verrez aussitôt que possible, etc. Et au labo, le personnage a été appelé Nelly. Donc, nous voilà, vous voyez, avec notre femelle, qui plus est, qui a maintenant un nom, un prénom. Hein, c'est aussi quelque chose d'assez important. Alors, on peut se demander pourquoi. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, Weidenreich, il voulait représenter le type du synanthrope. Alors, pour représenter le type du synanthrope, il vaut mieux représenter un mâle, parce que c'est sur les mâles que les caractères anatomiques sont les plus prononcés. Or, lui, il a choisi de représenter une femelle où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le crâne est un peu plus gracile. Hein, il a les caractères comme le torus susorbitaire, par exemple, au-dessus des orbites, ce gros bourrelet, il est moins prononcé. Donc, il a eu un choix délibéré de représenter une femme. On peut se demander pourquoi. Et dans cette correspondance que nous avons retranscrite avec Arnaud Hurel, eh bien, on avait trouvé l'évocation d'une petite fête qui s'était passée à Pékin. Et c'est là où je vous dis, vous faites ce que vous voulez de cette information, parce que c'est une interprétation qui est toute personnelle, mais moi je crois qu'il y a un rapport entre l'évocation de cette petite fête et de la petite blague qui est lancée à ce moment-là, et le choix de Franz Weidenreich de créer un individu féminin et de lui donner un prénom, et je pense donc de faire écho un petit peu à ça. On est cette fois-ci en 1926, donc vous voyez quand même quelques années avant 1937, date de la reconstitution, puis vous savez, dans ce Pékin que je vous décrivais tout à l'heure, ben voilà, on a une communauté de scientifiques un peu cosmopolite, internationale, vraiment un petit monde un peu particulier où on a un Pierre Teilhard de Chardin, un Gunnar Anderson, tout un petit monde qui se réunit souvent et on peut le comprendre, hein, souvent quand on est comme ça à l'étranger, on se réunit un peu pour récupérer des repères un peu plus occidentaux là dans ce cas présent par exemple. Donc cette petite communauté, elle se côtoie beaucoup. Puis en 1926, il y a un grand banquet qui est organisé en l'honneur donc du professeur Grabeau. Et alors une grande tablée, ils font un dîner préhistorique. On a même le menu, la carte de tout ce qu'ils dînent, qui est plein d'imagination. Et puis Gunnar Anderson, lui, il est en retard. Gunnar Anderson, lui, c'est celui qui va faire les premières découvertes du site de Choucoutien, qui va trouver cette dent qu'il va diagnostiquer comme étant humaine et qui va marquer le début en fait des fouilles du site de Choucoutienne. Et donc ce Gunnar Andersen, il est un peu en retard ce soir-là. Il arrive, tout le monde est déjà installé et en pleine discussion, et le professeur Grabo s'interrompt et le voyant arriver, donc là toute la table s'interrompt et il dit à Andersen, il lui dit: bon alors Monsieur Andersen, cette dent, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de l'homme? C'est du carnivore? Qu'est-ce que c'est? Et faisant référence en fait à une dent qui avait été trouvée précédemment aux États-Unis, qu'on avait pensé être de l'homme et qui s'était avérée être du carnivore. Donc homme ou carnivore, alors Andersen, il est là planté devant tout le monde. Il faut qu'il trouve un peu une répartie, éventuellement trouver un peu d'humour à faire, ce serait bien. Et du coup, il répond: bah, écoutez, c'est quelque chose entre les deux, hein, c'est entre l'homme et le carnivore, c'est une femme. Voilà. Et de là est partie l'histoire, à mon avis, est partie l'histoire de la Peking Lady, de la femme de Choucoutienne. Et je pense que cette histoire a quand même dû être colportée, être conservée dans ce giron un petit peu de cette communauté là, internationale. Et que donc, peut-être pour ça, quelques 15-20 années plus tard, Franz Weidenreich, qui va choisir de reconstituer un synanthrope, va choisir de reconstituer une femme.
C'était donc la conférence « Les hommes fossiles en os et en chair » d'Amélie Vialet à l'Institut de paléontologie humaine, une retransmission proposée par canalacademy.com.